Bonsoir à tous et bienvenue autour de cette grande table dans la deuxième partie de l'émission. Chine, la prospérité a-t-elle tué la contestation? On en parlera avec notre invité, le journaliste Pierre Aski. Il vient de réaliser pour Arte un film et un livre, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. À travers cette figure de la dissidence, nous en reviendrons aujourd'hui sur les rêves et les cauchemars de la population chinoise. Ce sera à partir de 12h55. Mais d'abord, 4 Molières pour un Turing. La machine de Turing, une pièce à voir, revient sur le parcours de ce mathématicien et cryptologue, Alan Turing, chargé en 1940 par son pays, la Grande-Bretagne, de décoder et percer le mystère de la machine allemande Enigma. Grand gagnant de la 31e nuit des Molières, la pièce créée à Avignon l'an dernier vient d'être prolongée jusqu'en juin au Théâtre Michel à Paris et retrouvera le Hof d'Avignon cet été au Théâtre Actuel.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et c'est l'histoire d'un homme qui court. Après quoi court-il? C'est l'histoire d'un homme qui, à travers la pureté formelle des équations, recherche la logique globale du monde et par là même son sens. Avec nous aujourd'hui, l'auteur et le comédien de cette pièce, La Machine de Turing, Benoît Solès, bonjour.
Bonjour.
C'est l'histoire d'un homme qui court, mais après quoi court-il? Bande-annonce.
Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing?
Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique.
Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre.
Plonge la pomme dans le chaudron. Pour qu'elle s'imprègne de poison.
Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond?
Je sais pas.
Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Murray?
Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence.
Est-ce qu'une machine peut penser?
Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches, on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin.
Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence? Même artificielle.
Tu es viré.
Non.
La plaisanterie est terminée.
Non.
Échec et mat. Pauvre fou.
Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur?
Les idées nouvelles effraient la plupart des gens.
Bande-annonce de La Machine de Turing. Alors, c'est pas à voir au cinéma, contrairement à ce que cette bande-annonce pourrait laisser penser, mais bien au théâtre Michel, jusqu'à fin juin, jusqu'à fin août.
Mais
même.
Alors,
ça a encore été prolongé
avant
cette grande tournée qui va se mettre
même,
en place.
Voilà, vous livrez une information. Un secret. La pièce va se prolonger au moins jusqu'au mois de décembre. Et vu que mon partenaire, Amaury de Crayoncourt et moi, nous allons en effet, comme vous l'avez annoncé, partir sur les routes pour les festivals d'été et notamment le festival d'Avignon, il y aura donc une double distribution. Une distribution qui va continuer de jouer la pièce à Paris toute la saison et une distribution, celle d'origine, qui sera à la rencontre du public. Donc voilà, pour une grande tournée en 2019-2020.
Le Hof d'Avignon, pour lequel la pièce a aussi été créée et qui a depuis fait son chemin, et quel chemin, le bouche à oreille a incroyablement fonctionné. Et la pièce est un succès depuis que vous la jouez avec votre partenaire sur scène, à Paris on disait notamment au Théâtre Michel, et donc bientôt partout en France et partout dans le monde. Adaptée au cinéma, cette histoire, celle d'Alan Turing, en BD et maintenant au théâtre. Alan Turing, c'est une figure héroïque pour vous, Benoît Solès?
Oui, et pas seulement héroïque, c'est ça d'ailleurs qui fait... sa spécificité, son intérêt, c'est qu'il est à la fois héroïque, tragique, romantique, scientifique. C'est une espèce de héros absolu qui cumule tous ces adjectifs et devient un personnage absolument fascinant par sa complexité et sa trajectoire humaine.
C'est aussi sa fin qui en fait un personnage tragique, une fin tragique, condamné à la castration chimique pour homosexualité. Il mettra fin à ses jours en croquant une pomme empoisonnée.
Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. mettre sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer.
Blanche-Neige et les sept nains, vous le montrez dans cette pièce, fasciné par ce conte.
Oui, alors il y a la part de légende dans cette affaire, et notamment le rapport avec la pomme d'Apple, de la firme d'Apple, on y reviendra peut-être.
Mais pomme aussi croquée,
la...
ouais.
Voilà,
ouais.
Mais il y a aussi la part de vérité. Blanche-Neige, c'est le premier, un des premiers Disney, peut-être le premier, je crois qu'il sort fin 37, début 38. Turing va voir ce film, et il est totalement fasciné par cette histoire de sorcière qui, avec son chaudron, comme ça, crée une potion magique et trempe cette pomme pour empoisonner Blanche-Neige. Il y a une histoire assez incroyable là derrière, parce qu'on peut se demander pourquoi. On sait qu'il est très gamin, Turing. Il est très curieux, il adore les choses comme ça qui stimulent son imaginaire. Figurez-vous que le personnage qui a inspiré Blanche-Neige, le dessin de Walt Disney, c'est l'actrice Hedy Lamarr. Et Lamarr, c'est une vampe d'Hollywood, une espèce de femme fatale comme ça, qui ressemble d'ailleurs en effet trait pour trait à Blanche-Neige, ou plutôt Blanche-Neige lui ressemble trait pour trait. Mais Lamarr, c'est aussi une scientifique, mais qui cachée. Elle a été une des inventeuses, théoriciennes des ondes Wi-Fi. Et on peut penser que Turing savait cette information et trouvait amusant, avait décrypté derrière le personnage de Blanche-Neige la présence d'Hedy Lamarr en tout cas. Il adorait ce film, il a vu beaucoup ce film et il s'est vraiment tué. C'est historique en trempant cette pomme dans du cyanure et en la croquant, en nous laissant là une espèce d'ultime pied de nez ou de message pour la postérité. Et c'est vrai que les légendes démarrent souvent avec ce genre d'actes comme ça, étranges, inexpliqués ou symboliques.
Mais puisque vous avez piqué notre curiosité sur ce point-là, le logo d'Apple a vraiment été inspiré, pense-t-on, à la fois des découvertes et du personnage d'Alan Turing.
C'est vrai que ce serait beau.
C'était un génie de l'informatique.
Voilà, hein, alors ouais. Turing invente l'informatique pour raccourcir les choses, et se tue en croquant cette pomme. Et le logo de la firme d'Apple, c'est une pomme croquée, qui a même été arc-en-ciel à un moment, le logo, qui pourrait rappeler le drapeau gay. Alors là, tout d'un coup...
Parce qu'Alan Turing était homosexuel.
Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se tue, bon, bref. Alors, bon, on se dit là, tiens, il y a quelque chose qui paraît très cohérent. Bon, Steve Jobs dit non, j'aurais aimé que ce soit ça, mais ça n'est pas ça. Aujourd'hui, néanmoins, pas mal de voix disent que c'est pas si simple, et qu'il a peut-être... pas pu revendiquer cet héritage Turing sur son logo, eu égard au fait qu'il vend des ordinateurs dans des pays où l'homosexualité reste punie de mort encore aujourd'hui. Michel Serres, notamment dans une vidéo qu'on trouve sur Internet, affirme, selon lui, qu'il y a un lien direct entre le logo, enfin la fin de Turing et le logo. Bon, c'est un débat un peu sans fin. Les spécialistes disent non, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est amusant que par cette fin, par ce geste, Turing provoque encore le débat et alimente sa propre légende.
Et voilà, il continue à créer des énigmes après en avoir résolu une historique et immense. Héros tragique, longtemps resté dans les oubliettes de l'histoire malgré son invention géniale qui a changé le cours de l'histoire. Ses activités de décryptage, d'espionnage l'ont condamné à rester dans l'ombre, Alan Turing, secret défense, longtemps encore après la guerre. Pourquoi et comment est-il sorti de l'oubli dans les années 80? Je vous propose d'écouter l'hypothèse d'un historien Bruno Fulini.
Turing correspond mieux à la mentalité contemporaine que dans les années qui ont suivi la guerre. Par ailleurs, Turing, c'est aussi, d'une certaine manière, le père de l'ordinateur. Et il est assez fascinant de constater que notre société, qui prête souvent aux nouvelles technologies toutes sortes de vertus, au fond, est l'héritière d'un secret militaire, d'une invention qui a été développé sous la contrainte et pendant la guerre à des fins tout à fait militaires. Ça nous met un petit peu aux prises avec les paradoxes de notre modernité, où finalement ces technologies développées par un geek avant la lettre, eh bien vont vaincre le nazisme et vont servir ensuite à encadrer, contrôler, fliquer la société finalement d'une manière qui n'a pas connu de précédents dans l'histoire. Donc là-dessus, c'est un destin qui le dépasse lui-même en tant qu'individu et qui est très intéressant pour les contemporains que nous sommes, peut-être plus que pour ceux qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui lui avaient survécu et qui préféraient les récits de batailles ou d'exploits, les récits de combattants.
Alors ça, c'est le point de vue de l'historien. Comment vous, l'auteur et acteur de La Machine de Turing, l'artiste Bruno Solès, Benoît Solès, vous expliquez cette résurrection, ce regain d'intérêt qu'on a pu avoir depuis quelques années autour de cette figure d'Alan Turing?
Bon, c'est vrai, le point de vue là, de l'historien est très juste. Il est historique, il est factuel. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu vraiment cette chape de plomb, de silence qui s'est abattue sur les gens qui avaient travaillé au décodage cryptage d'Enigma, et c'était d'ailleurs un pacte qu'ils acceptaient, hein. Ils savaient qu'ils se devaient au silence. Alors c'est vrai que ça devient une espèce de chose terrible chez Turing, parce que quand il est condamné, un peu par sa faute, pour dire les choses comme elles sont, pour homosexualité, il se retrouve dans un procès où une chose assez absurde, une histoire de cambriolage, et tout d'un coup, bref, son homosexualité apparaît, elle est illégale à l'époque, et il ne peut pas finalement dire tout ce qu'il a fait, qu'il a, pour simplifier, sauvé l'Angleterre et l'Europe en décryptant l'énigme, et il se retrouve, voilà, donc ce silence qui le pesait est quelque chose de terrible, et finalement... C'est ça qui nous rend ce personnage attachant, parce que il est une espèce de victime absurde de ce qu'il a lui-même créé et dont il ne peut pas parler. Il est une victime terrible de ce qu'il est et dont il ne peut pas assumer, revendiquer, voilà, son homosexualité. Et entre ces deux secrets, le secret sur l'énigme et le secret sur sa sexualité, un demi-secret, bon, c'était courant, ça se pratiquait, mais il fallait pas en parler. Il va révéler le secret sur son homosexualité, mais il respectera jusqu'au bout le pacte du silence sur l'énigme, et puis ce pacte de silence va se prolonger, et c'est voilà, seulement dans les années 70 que tout ça ressort. Donc évidemment, ça donne à ce personnage une notion de victime, quelque chose qui est lié à l'injustice, extrêmement fort.
Il va retrouver la lumière bien plus tard avec notamment la biographie d'Andrew Hodges en 83. Ça, c'est une biographie autorisée?
Oui, elle est autorisée, elle est fondamentale, comme on est en 83, Hodges rencontre encore des protagonistes. Ah. Il rencontre le policier qui a
interrogé
Turing. Il rencontre même l'amant qui a provoqué toute cette histoire là de cambriolage, le dépôt de plainte, condamnation, etc. Et puis surtout, c'est un mathématicien, c'est aussi un militant qui a une volonté, voilà, très très précise et très documentée de parler de Turing. Il y a voilà, dans la continuité de ça, une première pièce de théâtre de Whitmore qui se crée
en 86.
En 86. Et puis après, une foule quand même de reportages, bandes dessinées, romans. Turing devient progressivement, lentement mais progressivement, un héros. Et pour autant, il n'est pas encore réhabilité et le dossier Enigma n'est pas encore déclassé. Donc il y a quand même comme ça des étapes qui nous mènent, après une pétition lancée par un militant gay anglais qui interpelle Gordon Brown à l'époque et lui oblige de répondre, ce que Gordon Brown fait en s'excusant mais en ne le réhabilitant pas encore. On est là en 2011-2012, et puis en 2013, il y a le pardon royal. Turing est réhabilité, le dossier Enigma est déclassé, on a accès à toutes les archives qui sont scannées, qui sont consultables, et on se rend compte que tout ce que Hodges avait raconté, évidemment, est vrai, et ce destin nous apparaît enfin dans son immense, dans l'héritage incroyable qu'il nous laisse, et puis dans l'immense injustice aussi dont il a été la victime.
Août 2009, John Graham Cumming lance effectivement cette pétition qui demande au gouvernement britannique, à l'époque c'est le Gordon Brown qui est Premier ministre, de présenter ses excuses pour les persécutions subies par Alan Turing du fait de son homosexualité. Écoutez-le raconter ce moment.
Quelques semaines plus tard, en fait, 32 000 personnes avaient signé. Et début septembre, je regarde mes mails, il y avait un mail qui disait « Est-ce que vous pouvez appeler la résidence du Premier ministre, le fameux Number 10 Downing Street, avec urgence, ce soir ?» Alors, au début, je pensais peut-être c'était une blague, parce que normalement je reçois pas des mails comme ça. J'ai googlé le numéro de téléphone et effectivement c'était le number 10. Et j'ai appelé et en fait j'ai parlé avec un conseiller et il a fini par me dire « Gordon veut vous parler ». Et en fait, il m'a dit qu'il ne connaissait pas l'histoire du tout. Parce que, bien sûr, Alan Turing était connu par les informaticiens et dans certains milieux gays, mais c'était pas une histoire qui était connue par tout le monde. Et en fait, quand j'ai commencé la pétition, je pensais que Alan Turing était un des grands Britanniques. Il fallait parler de lui plus, et bien sûr, la fin de sa vie aussi.
Alors, c'est le début de la réhabilitation, mais elle ne sera pas totale, comme vous l'expliquez, oui. Benoît Solès, puisqu'il ne va pas obtenir d'excuses, simplement oui. des regrets oui. du Premier ministre. Vous ça met du temps, ces choses-là.
Oui, hein. Vous vous rendez compte ce que dit Graham Cumings, là, Gordon Brown, qui n'est pas le garçon, je pense, le moins cultivé que l'on puisse rencontrer, qui est britannique, qui est Premier ministre, en 2009, ne sait pas qui est Alan Turing. Et Alan Turing, 10 ans plus tard, vient d'être élu dans le Times, je crois, l'homme dans le monde le plus important du siècle. Alors là, c'est ça, c'est quand même vertigineux, ça, tout de même. Et voilà, donc, en effet, il y a des excuses, mais pas de réhabilitation. Selon Brown, on peut s'excuser, mais le réhabiliter aurait voulu dire que la loi de l'époque était pas bonne, et ça, il ne pouvait pas le faire. Donc, c'est uniquement la reine, quelques années plus tard, qui pourra le réhabiliter. Et avec lui, tous les homosexuels condamnés par cette loi de 1885, cette loi qui condamnait Oscar Wilde en 1900.
Qui a condamné Oscar Wilde, voilà, qui en fait, on retrouve en 1895, à 2 ans de travaux forcés, cette fameuse loi criminelle de 1885. Et vous mettez en scène, vous, dans la pièce, le procès de Alan Turing, le prédateur, tel qu'il était perçu à ce moment-là, inculpé pour perversion manifeste, condamné pour outrage aux mœurs et indécence, en violation de cette loi. Avec ce dialogue, parce que Turing avoue tout, c'est vrai, je suis un homosexuel, c'est vrai, j'ai payé M. Murray pour qu'il soit mon amant, je confirme sa version des faits. Que dit-il après cela face au public? C'est vous l'acteur, je vous souffle le début?
Oui, allez-y.
Il y a dans la vérité et la liberté quelque chose de véritablement apaisant.
Oui, c'est un... Bon, voilà, dans la pièce, Turing parle, parfois, et dans sa vie,
dans les faits,
et puis parfois, il nous parle, et il dit, voilà, il y a dans la vérité quelque chose de profondément apaisant. Je n'avais rien à me reprocher, mais j'ai ressenti en cet instant un sentiment de soulagement, je dirais presque de fierté. J'avais été au bout de cette démarche inconsciente qui consistait à me sacrifier pour mieux m'accomplir.
Toute sa vie, il s'est sacrifié en restant aussi dans l'ombre pour mieux s'accomplir, pour aller au bout de ses rêves. C'est le cas aussi sur cette machine Enigma, cette énigme qu'il a cherché à percer.
Oui, finalement, Turing, toute sa vie, est un garçon, c'est, je crois, ce qui fait preuve de son intelligence, qui est animé par une profonde curiosité. Donc, il cherche à comprendre quelque part comment la nature est programmée, quelle est la raison qui fait que les cellules se divisent, que un cerveau a cette consistance, sa fonction. Il cherche à décoder, à décrypter tout ça. Finalement, derrière cette recherche très scientifique, il y a des questions métaphysiques. Il cherche les grandes réponses, il cherche peut-être même Dieu, et ça l'emmène à réfléchir à la construction d'un cerveau électronique, à une machine abstraite qui est de fait l'ancêtre de l'ordinateur. Et d'une façon plus pratique, quand on le convoque pour tenter, avec tous les petits génies du royaume, de décrypter l'Enigma, cette espèce de machine infernale allemande qui codait la position des sous-marins et qui était l'enjeu stratégique de la Seconde Guerre mondiale, il continue d'appliquer ses recherches et il crée une énorme machine, un calculateur, qui, en associant les mots récurrents au message des Allemands, va arriver à l'impossible, c'est-à-dire à décrypter. Et puis il continue après à créer ces machines pensantes qui vont parler, voilà, d'intelligence artificielle, de machine capable d'apprendre de ses erreurs, pouvant être programmée pour n'importe quelle tâche. Tout ça au début des années 50, il faut bien comprendre qu'on le prenait pour un dingue. Et aujourd'hui, que l'on trouve ça bien ou pas, c'est essentiel dans notre monde. Il est un génie précurseur fondamental de l'informatique et de l'intelligence artificielle.
Avec nous jusqu'à 12h30, l'auteur de La Machine de Turing et comédien Benoît Solès. France Culture, il est 12h21.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Au Molière, la machine de Turing a raflé 4 récompenses, Benoît Solès. Un hold-up plus que mérité. Molière du meilleur spectacle, mise en scène pour Tristan Petit-Girard, catégorie théâtre privé. Molière aussi du meilleur auteur vivant et comédien. Ça, c'est vous, Benoît Solès. Ce soir-là, vous avez tenu à rendre hommage à la figure d'Alan Turing, de rappeler aussi combien ses combats, cette question de l'homosexualité qui lui a coûté la vie, était encore d'actualité aujourd'hui pour beaucoup et dans pas mal de pays. C'était un hommage à l'homme qu'il a été et aussi au génie qu'il a pu incarner. On l'évoquait tout à l'heure, une vie longtemps tenue au secret à cause de cette découverte importante qu'il avait faite et qui a permis de changer le cours de la guerre. Puis, cette première biographie, cette première pièce qui ont sorti un peu cette figure de l'ombre et remis en lumière. En France, l'histoire d'Alan Turing a aussi été adaptée en BD par Éric Liberge, par Arnaud Delalande. Et puis il y a eu ce film The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch qui a révélé au grand public cette figure d'Alan Turing. Lui, c'était l'acteur de la série britannique Sherlock. Enfin, une grande traversée sur France Culture, on va quand même le dire. C'était l'été dernier, réalisé par Amaury Chardot. Passionnante, effectivement. Vous choisissez de l'adapter au théâtre. Et contrairement au film qu'on évoquait, qui s'ouvre sur le recrutement de ce prof de maths par les services britanniques, qui raconte sa découverte sous forme de casse-tête scientifique du secret de l'énigme allemande, sous la forme aussi de cette amitié et des rivalités qu'il entretenait avec les autres chercheurs mis à contribution, vous mettez en scène, Benoît Solès, l'après, dans une succession de souvenirs à partir d'un cambriolage dont il aurait été victime en 52. Pourquoi ce choix de procéder par flashback?
D'abord, il y a une temporalité dans tout ça, c'est-à-dire que moi j'ai entendu parler de Turing en 2008, il n'est pas réhabilité, il n'y a pas eu le film, et j'ai commencé à travailler d'après les sources disponibles à l'époque, ça a pris un peu de temps, j'ai fait plusieurs versions, et puis arrive ce film. Donc ce film, bon, moi ça me coupe un peu les ailes, je me dis mince, Turing n'était pas du tout connu en France. J'étais très heureux de participer à sa réhabilitation. Donc je vois le film et malgré tout, j'y découvre un travail de reconstitution historique passionnant, assez fortement axé sur la cryptanalyse d'Enigma et une vision de Turing qui m'étonne un peu. Un personnage d'un autisme un peu froid, une espèce de dandy à la limite du cynisme. C'est pas comme ça que je le voyais. Et puis dans le film, faut le dire aussi qu'il est assez peu bègue, assez peu fou et assez peu gay. Au sens homosexuel du terme. Donc là, il y a eu une volonté presque militante, une espèce de révolte, de me dire la liberté de ton du théâtre me permettra peut-être de montrer un Turing plus humain, par le biais de son humanité, de sa sensibilité, de la vérité, de ses choix de vie. Et c'est par cet angle-là que j'ai voulu écrire cette pièce. J'ai fait la synthèse de toutes les sources, mais j'y ai apporté cette sensibilité, ce regard. Voilà, je voulais lui redonner son humour, son étrangeté.
C'est l'histoire d'un homme qui court, c'est aussi une histoire de silence et de solitude, beaucoup de solitude, dit-il dans le monologue qui ouvre la pièce. Alan Turing était un génie solitaire, d'où le choix peut-être de ce dispositif assez minimaliste, 2 comédiens seulement sur scène, vous en Turing et Amaury de Crayoncourt qui vous donne la réplique et interprète tous les autres personnages de l'histoire, agent de police, jeune amant délinquant, joueur d'échecs, etc. Un lourd secret, voilà ce qu'il devait cacher, et une part de folie qui l'isolait aussi du monde, un fou bègue, dites-vous. Sur son phrasé, les mots d'Andrew Hodges, son biographe, mathématicien et auteur, donc en 83, de la première biographie d'Alan Turing.
Well, it was often described as slightly high-pitched, and there were.
Sa voix a souvent été décrite comme assez aiguë, avec des hésitations. Elle était probablement un peu comme la mienne, mais je ne pense pas qu'elle était si aiguë que ça.
Very, very smooth manner of.
Il n'était juste pas très à l'aise.
And sometimes he did get stuck for a word and hesitated.
Et parfois il restait effectivement bloqué sur un mot.
If you heard it now, I think it would mainly come over that it was.
Si on l'écoutait maintenant,
he had an upper class voice.
On verrait surtout qu'il avait une voix de classe supérieure. Très vieux jeu pour nous.
He couldn't get away from the fact that he came from the more privileged parts of society.
Il ne pouvait pas échapper au fait qu'il venait d'une partie de la société plus privilégiée. Mais ce qui était frappant, c'est qu'il n'en profitait pas du tout et qu'il traitait n'importe qui selon des critères assez différents, à savoir s'il savait de quoi il parlait. Il ne s'intéressait pas aux gens de son rang qui ne savaient pas de quoi il parlait. Il s'intéressait aux gens d'où qu'ils viennent, s'ils avaient des choses intéressantes à dire ou s'ils faisaient les choses convenablement.
Voilà Andrew Hodges dans La Grande Traversée, diffusée l'été dernier sur France Culture et que vous pouvez toujours réécouter sur notre site. Il se promène en pyjama et parle comme un disque rayé, dit de lui dans votre pièce de Sergent Ross, garçon de la haute britannique, tel que nous le décrit aussi Hodges. Comment vous, Benoît Solès, vous avez traduit son malaise, ses hésitations, cette attitude perçue comme un peu hautaine en français, dans le texte et sur scène?
Ce qui était capital, et alors encore une fois je vais paraître prétentieux, mais ce qui m'a paru manquer dans le film, c'était son humour. Il y a un humour anglais, voilà, cet humour un peu pince sans rire qui fait qu'on peut faire une plaisanterie même au bord du précipice, surtout au bord du précipice d'ailleurs. Donc il y avait voilà cette espèce d'humour, cette curiosité, comme Hodges le dit très très bien, se laisser aller sur lui-même. Et puis avec le metteur en scène Tristan Petit-Girard, on a cherché une approche, disons, par rapport à l'incarnation du personnage, à son corps, un personnage un peu fragile. J'ai perdu beaucoup de poids pour le jouer, en déséquilibre permanent. Et en même temps, avec une espèce de sourire accroché à son visage et les yeux pétillants de curiosité, si possible, d'intelligence. Et puis, au-delà même de tout ça, au-delà de Turing lui-même, on a construit cette pièce comme une grande ode à la tolérance et essayer de faire en sorte que l'homosexualité, bien sûr, mais le bégaiement, l'autisme, toute forme de différence, qu'elle soit ressentie pour soi-même ou vécue, ou vue chez l'autre, soit questionnée par le spectateur. Voilà. Qui suis-je par rapport à la différence? Suis-je moi-même différent? Et comment est-ce que je me positionne par rapport à ma différence ou à la différence des autres?
Sa vie était remplie de secrets. Vous vous êtes beaucoup documenté sur lui pour pouvoir écrire cette pièce. Est-ce qu'il y a un secret, quelque chose, une part de lui que vous avez découvert et choisi de garder pour vous, de garder sous silence?
J'ai lu à peu près tout, de Hodges à Whitemore, et en passant évidemment par tout ce que vous avez cité, romans, BD, ou même l'immense travail d'Amaury Chardon dans Les Grandes Traversées, qui était passionnant. Mais là où je me suis peut-être connecté à lui, c'est en allant dans là où il a vécu, et notamment cette petite maison à Wilmslow, dans la campagne près de Manchester, où il est mort. Elle est pas facile à trouver, je peux vous dire, mais je l'ai retrouvée, et en me promenant dans la campagne, comme ça, j'ai eu le sentiment, au bord d'un ruisseau, de me dire, c'est forcément là qu'il allait courir, c'est peut-être même sur ce petit pont qu'il aimait s'arrêter. Donc j'ai essayé de le retrouver par des sensations très liées aux perceptions sensorielles, à la nature. Je trouvais que c'était une jolie façon de me connecter à ce personnage qui était bien plus charnel, incarné, qu'on voulait bien le dire.
Merci beaucoup Benoît Solès. La Machine de Turing, en partenariat d'ailleurs avec France Culture, est à voir en tournée mondiale maintenant.
On peut le dire, oui, ça voilà. Va se jouer beaucoup, partout.
Et encore aujourd'hui au Théâtre Michel à Paris. Merci beaucoup d'avoir
été avec nous. Merci à vous.